enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Comment pouvoir obtenir la promesse si on ne parle pas de la promesse? Mais vraiment, est-ce aussi important d'en parler? Oui, le Saint-Esprit est capital. Sans le Saint-Esprit, il ne peut rien se passer. Il est dit que dans les derniers temps, au jour de l'enlèvement de l'Église, le Saint-Esprit ne sera plus sur la terre. Qu'est-ce qui pourra se passer? Pas grand-chose. Du moins, pas grand-chose de bon. Parce que c'est le Saint-Esprit qui vient changer nos cœurs, qui vient transformer nos vies, qui vient nous convaincre. Jésus pouvait dire dans Jean 16, 7 et 8, Jean, chapitre 16, versets 7 et 8, il dit, « Je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Il fait référence au Saint-Esprit ici. « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Ne nous faisons pas d'illusions. Nous ne pouvons pas convaincre le monde. Est-ce que vous avez déjà essayé d'avoir une bonne discussion avec un témoin de Jéhovah et essayer de le convaincre? C'est pas facile, non? Et si vous êtes juste là dans le domaine des paroles, du discours, convaincre, c'est impossible. Et même on peut arriver avec les disciples en disant « Mais c'est impossible, qui peut être sauvé ?» Et Jésus va répondre « C'est impossible aux hommes, mais c'est possible à Dieu. » Et la mission du Saint-Esprit. Et Jésus dit, quand il sera venu, il convaincra le monde. Et est-ce qu'il y en a ce matin qui sont convaincus que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité afin que nous ayons la vie, et qu'en lui, nous ne périssons pas, mais nous vivons éternellement? Est-ce que vous avez cette conviction? Cette conviction vient du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous a convaincus de péché, qui nous a amenés à la repentance, qui nous a montré que nous étions pécheurs et que nous avons besoin d'un sauveur. C'est le Saint-Esprit qui a ouvert nos yeux, qui nous a révélé la parole. Et la Bible n'est pas devenue pour nous un livre de religion, un livre incompréhensible, mais un livre de vie, parce que l'Esprit vivifie. L'Esprit est venu donner la vie à la parole, qui est venu nous nourrir, nous enseigner et nous montrer le chemin. Le Saint-Esprit parle à nos cœurs. Le Saint-Esprit agit. C'est le Saint-Esprit qui nous a conduits dans une nouvelle naissance. Dans Jean chapitre 3, Jésus parle à Nicodème. Et que dit-il à Nicodème qui est docteur de la loi? Il dit, en vérité, je te le dis Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Nicodème, écoute bien, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, s'il n'y a pas une naissance en esprit, s'il n'y a pas une naissance par l'esprit, eh bien, l'homme ne peut pas voir le royaume de Dieu. Le Saint-Esprit nous conduit dans la nouvelle naissance. Ce qui y est né de l'Esprit est Esprit. Est-ce que vous êtes né de l'Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit est venu vous conduire dans une nouvelle naissance? Je fais souvent référence à cette image-là, parce qu'elle est simple, je pense. C'est celle d'Adam. Quand Dieu a fait Adam. Adam, c'est bien comme surnom, Adam. Le glaiseux. Ça veut dire ça, Adam en hébreu. Le glaiseux. Mon petit glaiseux. Adam, le glaiseux, parce qu'il a été fait de la terre. Dieu va faire une masse. Et puis, ça va être, bon, une sorte de sculpture, enfin, de poterie, je ne sais pas, c'est Adam. Mais il dit que Dieu va souffler de son souffle, de son esprit, sur cette glaise. Et Adam devint un être vivant. Et de la même manière, ça c'est une naissance physique, c'est la création de l'homme, mais de la même manière, dans cette naissance spirituelle, Dieu souffle sur nous de son esprit afin de nous donner la vie, que nous passions de la mort à la vie. Dans les Épîtres, l'apôtre va dire souvent, nous étions morts dans nos offenses. On était mort, mais maintenant on est vivant parce que le souffle de Dieu, l'Esprit de Dieu est venu nous conduire à la vie. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Le Saint-Esprit agit dans cette nouvelle naissance. Et s'il faut convaincre, si quelqu'un n'est pas convaincu encore, considérez Romains 8, verset 9. Peut-être quelqu'un dira, mais ça ressemble pas trop à la prédication d'un pentecôtiste, là, parce que, non, écoutez bien, c'est ce que dit la Bible. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Est-ce qu'on comprend bien ce verset? L'apôtre Paul est en train de dire, si l'Esprit de Dieu n'habite pas en toi, tu n'appartiens pas à Christ. Tu n'es pas sauvé. Ah, de quoi est-ce qu'on parle au juste là? On ne parle pas du baptême dans le Saint-Esprit. On parle de l'Esprit de la nouvelle naissance. Si quelqu'un n'a pas reçu cet Esprit, qui l'anime et qui fait de lui un être spirituellement vivant, il appartient pas à Dieu. Il faut que le Saint-Esprit puisse venir le convaincre, il faut qu'il naisse d'esprit. Si quelqu'un est né de la chair, il est chair, mais s'il est né d'esprit, il est esprit. Et c'est dans cette naissance d'esprit, dans cette nouvelle naissance, que l'on peut voir le royaume de Dieu. Et là, c'est clair, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alors, nous croyons, et je crois en lisant la Bible, et les versets sont là devant nous, que le Saint-Esprit nous est donné au moment de la nouvelle naissance. Allô?
Amen.
Oui? Et donc, si je reprends, on peut mettre une tonne de versets, et je ne veux pas aller trop loin dans une étude biblique ce matin, mais considérez, quand l'apôtre Paul dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit ?» À partir de quand on devient le temple du Saint-Esprit? Quand on est né de nouveau. Et que Jésus et le Père, il dit, moi et le Père, nous viendrons faire notre demeure en lui. Donc le Saint-Esprit vient habiter dans nos cœurs. On dit lors de la conversion, Jésus vient dans mon cœur. Mais comment vient-il dans notre cœur? Par son Esprit. Et donc, nous devenons le temple du Saint-Esprit. Si on prend le fruit de l'Esprit, Galates 5, 22, le fruit de l'Esprit, c'est à partir de quand est-ce qu'on manifeste le fruit de l'Esprit? À partir de la nouvelle naissance. La paix, la joie, la bonté, l'amour, tout cela, c'est à partir de la nouvelle naissance que le fruit de l'Esprit se manifeste en nous parce que l'Esprit est venu changer nos vies, changer nos cœurs et a fait de nous un être nouveau. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Nous étions morts, il nous a ressuscités, il nous a donné la vie. Amen. Alors peut-être quelqu'un va dire, bon, c'est bien là, mais ça me mêle plus qu'autre chose. C'est quoi donc le baptême dans le Saint-Esprit si on a déjà l'Esprit? Pourquoi donc parler du baptême dans le Saint-Esprit? Pourquoi donc parler d'une Pentecôte? Pourquoi donc insister sur le jour de la Pentecôte, sur le fait que vous recevrez une puissance si on l'a déjà reçue? Quelqu'un dira, mais moi je suis sauvé, moi j'ai donné ma vie à Jésus, le Saint-Esprit est venu changer mon cœur, le Saint-Esprit m'a transformé, le Saint-Esprit est en moi, et même, comme dit l'apôtre Jean, l'Esprit atteste à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Le Saint-Esprit met une conviction dans mon cœur, que j'ai une place au ciel, que je suis enfant de Dieu et que le Seigneur m'a sauvé. Alors pourquoi donc faire toute une série sur « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit » si on l'a déjà? Allô? Pourquoi parler d'une deuxième expérience? Comme s'il y avait la nouvelle naissance et une deuxième expérience. Regardez Éphésiens 4, 7. Il est dit, il y a un seul corps. Vous avez tous ces versets dans le pamphlet. Si vous voulez prendre le temps de relire tous ces versets durant cette semaine ou même d'aller en chercher d'autres, c'est fait pour ça. Éphésiens 4, il est dit, il y a un seul corps et un seul esprit. Donc c'est clair qu'on ne reçoit pas un certain Saint-Esprit au jour de la nouvelle naissance et un autre Saint-Esprit lors d'un baptême dans le Saint-Esprit. Il y a un seul esprit. Comme vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation, il y a aussi un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, un seul baptême, il est question du baptême d'eau aussi, du baptême de repentance, du baptême d'engagement. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Il y a un seul esprit. Mais il est dit aussi, il y a une seule foi. On va parler de la foi quelques instants pour faire l'analogie entre l'esprit et la foi. Ça va peut-être nous aider à mieux comprendre comment ça fonctionne en ce qui concerne l'esprit, parce qu'au niveau de la foi, il semblerait qu'on ait moins de problèmes à le comprendre. Est-ce qu'on lit bien qu'il y a une seule foi? Oui? Il n'y a qu'une seule foi. La foi pour être sauvé est la même que la foi pour être guéri. Alors, si tu es sauvé, et si tu crois que Jésus est mort sur la croix pour toi, si tu crois qu'il a pris sur lui le poids de tes péchés, si tu as cette foi qui t'amène au salut, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, tu n'as pas besoin d'une autre foi pour être guéri. Tu as déjà la foi. Allô? Et ne disons pas, Seigneur, donne-moi la foi pour être guéri, j'ai juste la foi pour être sauvé. Il n'y a qu'une seule foi. C'est la même. Quelque part, ça devrait nous encourager en disant, n'allons pas chercher quelque chose qu'on a déjà. Est-ce que vous avez la foi? Et si vous avez de la foi grand comme un grain de sève, ce qui n'est pas grand-chose à vrai dire, mais ça suffit pour déplacer des montagnes. Alors, si ce matin, tu crois au Seigneur Jésus, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Christ l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Et de la même manière, tu seras guéri. C'est la même foi qui sauve et qui guérit. Et ne disons pas, moi j'ai juste la foi pour être sauvé, mais la foi pour être guéri, c'est pas pour moi. C'est la même. C'est la même. Et c'est à nous à mettre en œuvre notre foi et à la vivre de la même manière. Pourtant, alors qu'il n'y a qu'une seule foi, les apôtres vont dire à Jésus, et on va voir ce verset, « Seigneur, augmente-nous la foi. » Est-ce que ça veut dire qu'ils n'avaient pas la foi? Il dit, « On a la foi, Seigneur. Augmente-la. » La foi a donc la possibilité d'être augmentée. Même à un moment, Jésus dit, « Qu'il te soit fait selon ta foi. » En proportion de ta foi, par rapport à ta foi. Même il va dire, je n'ai jamais vu en Israël un homme qui a une aussi grande foi. Jésus lui-même va parler de gens qui ont une grande foi et va dire à ceux qui s'approchent de lui pour être guéris, selon ta foi, en proportion de ta foi. Donc la foi est quelque chose qui, malgré tout, se mesure, puisqu'elle peut être augmentée. On peut être gens de peu de foi. Est-ce que Jésus n'a pas dit ça un jour à ses disciples? Gens de peu de foi, jusqu'à quand vous supporterai-je? Non, ça ne vous rappelle rien? Il y a peut-être que je fais partie du lot, non? Et dire, Seigneur, augmente-nous la foi. Mais quelqu'un dira, ben oui, mais qu'est-ce que ça prend pour être sauvé? Ce qui prend pour être sauvé, c'est la foi zatzit zatzol. C'est ça? C'est la foi, c'est tout. Mais on comprend qu'il y a comme plus encore et que cette foi peut être augmentée et que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ et que plus on est au contact de sa parole, plus on est à son contact, plus notre foi va augmenter. Est-ce qu'on peut dire pour notre part, j'arrive à comprendre ça, qu'il y a des moments où j'avais plus de foi, où je sens que j'ai plus de foi maintenant qu'à une autre époque. Ça ne voulait pas dire que vous n'étiez pas sauvé avant, mais vous aviez une certaine mesure de foi, et cette foi est appelée à grandir. L'apôtre Paul va dire à certains moments, à certains égards, on va le lire maintenant, dans 2 Thessaloniciens 3, « Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu comme cela est juste, parce que votre foi a fait de grands progrès et que l'amour de chacun de vous à l'égard des autres augmente de plus en plus. » L'amour augmente, on arrive à le comprendre. Mais il dit aussi, votre foi a fait des progrès. Ça ne veut pas dire, avant, vous étiez incrédules. Avant, vous ne croyiez rien. Avant, vous n'étiez pas sauvés. Avant, ils étaient sauvés. Mais leur foi a grandi. Et elle a grandi en bon, puisqu'elle a fait de grands progrès. Est-ce qu'il en est de même en ce qui concerne l'esprit? Est-ce qu'on peut se poser cette question? Je ne sais pas si c'est celle-là. Seigneur, augmente-nous l'esprit. Ce n'est pas dans la Bible, hein? C'est moi qui pose la question. De la même manière que les apôtres ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Seigneur, l'esprit que j'ai reçu lors de ma nouvelle naissance, ta présence en moi, cet esprit qui me révèle ta parole, cet esprit qui me conduit, cet esprit qui me dirige, cet esprit qui me transforme, cet esprit qui m'amène à manifester le fruit de l'esprit. Seigneur, augmente en moi l'esprit de la même manière que tu augmentes en moi, eh bien, la foi, l'amour et puis tout le reste. Est-ce que c'est possible? Comme un dessin vaut mieux qu'un long discours, j'ai fait un petit dessin. Ça, c'est vous, ou c'est moi. Mais enfin, pas tout à fait, parce que ça, ça a l'air vide. Hein? Alors, on va le remplir un petit peu, on pèse une fois. Ah, voilà, c'est mieux. Hé, hey, une fois. Oh, ça le rendait vite, là. Alors, je ne suis pas capable de dire, théologiquement parlant, comment on est rempli lorsqu'on est sauvé? Est-ce que c'est une dose comme ça? Est-ce que c'est plus? Est-ce que c'est moins? Je pense que là, ce serait hasardeux, puis on n'a pas d'aiguille qui permet de mesurer la dose d'esprit de chacun. Mais en tout cas, la Bible nous dit qu'on a l'esprit et qu'on est le temple du Saint-Esprit. Et si on accepte ce principe que l'esprit qui est en nous peut augmenter et prendre plus de place, alors il peut augmenter. Et puis, il peut même augmenter jusqu'au top. Et pas encore au top, là. Seigneur, un peu plus. Ah, voilà, c'est mieux. Et quand il est jusqu'au top, ça s'appelle être rempli. C'est ça, être rempli? Non? Quand vous remplissez une bouteille, ça va jusqu'en haut. Être rempli. Et c'est une expression que l'on retrouve souvent dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes des Apôtres et même dans les Épîtres. Soyez, dit dans l'apôtre Paul dans Éphésiens, soyez remplis du Saint-Esprit. Il ne dit pas, ayez, on va redescendre d'une flèche, ayez pas un peu d'esprit, ou même beaucoup d'esprit, il dit, soyez remplis, jusqu'en haut. Et même, soyez toujours. Et il faut qu'on soit continuellement remplis du Saint-Esprit. Et le jour de la Pentecôte, que s'est-il passé? Ils ont été remplis du Saint-Esprit, ce qui sous-entend que avant l'esprit qu'ils avaient, ils n'étaient pas remplis. Quelqu'un dira quoi? Ils avaient l'esprit avant la Pentecôte? Allô? Est-ce qu'ils étaient sauvés? Et si vous avez besoin d'une preuve, allez dans Jean, le dernier chapitre de l'évangile de Jean, où Jésus souffla sur eux et leur dit « Recevez mon esprit » avant la Pentecôte. Donc ils ont reçu quelque chose de l'esprit avant la Pentecôte. Mais le jour de la Pentecôte, c'est pas qu'ils reçoivent l'esprit. Ils l'avaient déjà. Mais ils ont été remplis du Saint-Esprit. C'est ainsi que c'est exprimé. Ils furent tous remplis. Ce qu'ils avaient a été complété afin d'être remplis. Et même, un peu plus tard, dans Actes 4, on voit qu'ils furent tous remplis à nouveau. Alors là, on va dire, mais c'est mêlant là, ils étaient déjà remplis, comment est-ce qu'ils peuvent être remplis encore? Ben, on peut être rempli plus que rempli, on va voir ça. Comment est-ce que ça peut fonctionner? Là-dedans, j'en profite maintenant pour parler du parler en langue, qu'on appelle techniquement la glossolalie. le parler en langue. Nous croyons, je crois, en lisant la Bible, et on va lire quelques versets ensemble. Est-ce qu'on est capable de sauter la diapo puis de revenir là-dessus après? Nous croyons que le parler en langue, c'est quelque chose que Jésus déjà avait annoncé. Dans Marc 16, il dit, « Voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, ainsi de suite. » J'arrive dans Acte 2, le jour de la Pentecôte, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Et là, j'insiste sur le rapport de cause à effet. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et parce qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit, ils se mirent à parler en d'autres langues. Le fait de se mettre à parler en d'autres langues, c'est parce qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et on retrouve ça encore dans Acte 10. Pierre est dans la maison de Corneille. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car il les entendait parler en langue. Parce que dans la maison de Corneille, les gens se sont mis à parler en langue, ils se sont dit, ils ont eux aussi fait la même expérience que nous le jour de la Pentecôte, parce qu'ils les ont entendus parler en langue. Ils n'ont pas vu des gens tomber ou trembler ou je ne sais pas trop faire quoi, mais ils les ont entendus parler en langue et se sont dit, ils ont aussi reçu le don du Saint-Esprit. Dans Acte 9, avant de lire Acte 19, juste faire référence à Acte 8, Philippe est en train d'évangéliser la Samarie. Et là, il y a des prodiges, il y a des miracles. Et une grande foule se convertit, se donne leur vie au Seigneur, et Philippe les baptise. Et alors, ils sont baptisés, ils sont devenus maintenant chrétiens. Et suite à cela, eh bien, on envoie de Jérusalem Pierre et Jean afin qu'ils aillent prier pour ces nouveaux convertis de Samarie. Prier pourquoi? Afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et là, dans ce passage, il nous est dit que Pierre et Jean leur imposaient les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Et je reconnais que dans ce passage-là, il n'est pas dit qu'ils parlaient en langue. Il est simplement dit « ils reçurent le Saint-Esprit ». Maintenant, moi, mais ça c'est ma compréhension, et je comprends que quelqu'un ne soit pas forcément convaincu par cela, moi ce que je vois, c'est Simon le magicien, et il dit que Simon le magicien a vu qu'il recevait le Saint-Esprit par l'imposition des mains, il a voulu la même chose. Donc, ce que j'en déduis simplement, c'est que quand Pierre et Jean ont prié pour que les Samaritains reçoivent le Saint-Esprit, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ça s'est vu. Il y avait quelque chose de concret, il y avait quelque chose de visible. Ce n'était pas juste quelqu'un qui disait « Ah, c'est juste en moi » et puis non, il y a quelque chose qui se voyait et qui attestait que vraiment ils avaient reçu le Saint-Esprit. Mais c'est vrai que dans ce passage-là, ce n'est pas dit explicitement. Par contre, dans Acte 19, l'apôtre Paul arrive à Éphèse. Regardez ce qu'il est écrit. Il est dit « Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit. » Alors, imaginez, Paul est en voyage. Il arrive pour la première fois dans la ville d'Éphèse et il rencontre des croyants. Il rencontre des chrétiens. Et la première question que Paul leur pose. « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Est-ce que nous, c'est la première question qu'on pose à un chrétien, à des gens que l'on rencontre? Paul, lui, c'est la question qu'il pose. Pourquoi? Parce que pour Paul, cette question est importante. Elle est capitale. Puis il sait aussi que la nouvelle n'est peut-être pas venue jusque-là encore, puisque c'est ce qui s'est passé. Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit, on n'était même pas au courant de la promesse du Père. Personne ne nous en a parlé. Alors Paul corrige et va leur parler du Saint-Esprit. Et voilà ce qu'il est dit. Il leur dit donc, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent, du baptême de Jean. c'est-à-dire du baptême de repentance, de consécration à Dieu. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ensuite, il est dit, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Là encore, il y a une relation entre la venue du Saint-Esprit sur eux et le fait de parler en langue et de prophétiser. Je reviens à mon petit dessin. Est-ce qu'on est capable de revenir à mon petit dessin? Pour dire que donc, ce que nous croyons, c'est que lorsque l'on est rempli du Saint-Esprit, cela se manifeste par le parler en langue. Quand on remplit un contenant, quand il est rempli là comme ça, puis rempli un peu plus que moins, ça doit couler un peu là, non? Et mon interprétation, notre interprétation, la doctrine dans laquelle nous croyons, c'est que quand ça coule, ça se manifeste par un parler en langue. Et que le parler en langue est en fait le signe visible, la manifestation qu'il y a quelque chose qui fuit là, ça déborde quelque part. Et comment ça déborde? Au travers d'un parler en langue. Est-ce que vous me suivez? Alors, pour être très clair, quelqu'un me dira, est-ce que vous êtes en train de dire que si quelqu'un ne parle pas en langue, il n'est pas rempli du Saint-Esprit? Eh bien oui. Je suis en train de dire que peut-être si tu parles pas en langue, c'est juste là. Et gloire à Dieu, c'est formidable. Mais je crois que le parler en langue, d'après tous les passages qu'on a lus ensemble, c'est ma conviction et je suis pas le seul. Je vous rappelle que parmi tous les évangéliques, le groupe pentecôtiste c'est le plus nombreux. Et c'est le groupe, des pentecôtistes qui grandit le plus vite aussi. Quand je parle de pentecôtistes, je parle pas des assemblées de Pentecôte du Canada. L'église La Vie Comblée, c'est une église pentecôtiste. C'est une église où on croit dans la Pentecôte. C'est une église où on croit dans le Saint-Esprit. C'est une église où on croit qu'il y a une manifestation dans un parler en langue lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit. Donc, ma compréhension, notre doctrine, ce que nous enseignons ici, c'est que lorsque l'on est rempli, on parle en langue. Et maintenant, quelqu'un dira, et alors, ça fait quoi? Attention, quand ça déborde, quand on est rempli, ça déborde. Mais c'est la question que je posais tout à l'heure, est-ce qu'on peut être plus que rempli? Ben oui, parce que ça peut déborder au compte-gouttes, ou ça peut déborder un peu plus, ou encore plus, ou encore plus. Est-ce que vous me suivez? Et donc, rempli du Saint-Esprit, Pierre rempli du Saint-Esprit, alors qu'ils étaient déjà remplis du Saint-Esprit, c'est comme s'ils étaient remplis encore plus. On va dire, mais ça sert à rien de remplir plus quand quelque chose est déjà plein. Mais c'est justement la volonté de Dieu, c'est que ça déborde. La volonté de Dieu, c'est pas de nous remplir et s'arrêter juste à ras en disant « ça y est, il est rempli ». La volonté de Dieu, c'est pas qu'on soit rempli. La volonté de Dieu, c'est qu'on déborde et c'est qu'on soit tellement rempli qu'on déborde encore davantage. Souvenez-vous de Jésus lorsqu'il disait dans l'évangile de Jean, alors qu'il parlait du Saint-Esprit, « Venez à moi, vous tous qui avez soif ». Hein, vous vous souvenez de ça? Jésus dit, venez à moi, vous tous qui avez soif. Et Jean dit, il parlait du Saint-Esprit. Donc, en venant à Jésus, le Saint-Esprit vient nous désaltérer. Mais il dit aussi, des fleuves d'eau vive couleront de votre sein. La volonté de Dieu, c'est que de nous sortent des fleuves d'eau vive. Pas quelque chose au compte-gouttes, parce qu'on déborde un petit peu. Alors, il y a un peu de fuite. Il faut que ce soit des fleuves d'eau vive qui sortent de nous-mêmes en bénédiction pour ceux qui sont autour de nous. C'est la volonté de Dieu. Allô? C'est ainsi. C'est ainsi que se définit la doctrine de la Pentecôte. Nous ne disons pas que celui qui ne parle pas en langue n'a rien reçu, que celui qui ne parle pas en langue n'a pas le Saint-Esprit. Nous disons que celui qui est rempli du Saint-Esprit, eh bien, ça doit déborder quelque part. Il doit y avoir quelque chose qui déborde. Et ça se manifeste au travers du parler en langue. Mais le parler en langue, c'est juste les quelques gouttes qui débordent. Il y a d'autres choses qui doivent arriver. Il y a des manifestations spirituelles. Il y a toute la puissance du Saint-Esprit qui doit se manifester dans notre vie. Que dire des dons spirituels? Qu'est-ce que les dons spirituels? L'apôtre Paul dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Paul déjà insiste encore là-dessus, en disant, les dons spirituels, c'est important. Et je veux que personne soit dans l'ignorance. 1 Corinthiens 12:1. Que personne ne soit dans l'ignorance. Les dons spirituels. Si on regarde Darby a traduit dons spirituels différemment. Il dit, en ce qui concerne les manifestations spirituelles, parce que le mot utilisé ici, c'est les pneumatikos, c'est-à-dire, même certains vont traduire, les spirituels. En ce qui concerne les choses spirituelles, les dons spirituels, les manifestations spirituelles. Une manifestation spirituelle se manifeste lorsque ça déborde. Et plus ça déborde, plus ça va se manifester. Certains vont dire, mais il y a des gens, on a l'impression qu'ils ont une onction sur eux et il y a un ministère de puissance. Est-ce que vous avez entendu des fois ce genre de discours en disant, mais oui, mais ça c'est un homme de Dieu, il y a un ministère de puissance et il se passe des choses extraordinaires sous son ministère parce que ça déborde un peu plus qu'un autre. Et il ne faut pas que ça déborde un peu et dire simplement, moi je veux juste être rempli, puis moi je suis rempli. Non, je veux déborder pour bénir les autres. Il y a toutes sortes de versets qui concernent les dons spirituels et je ne vais pas rentrer dedans ce matin parce que je n'ai pas le temps, mais vous invitez à relire les dons spirituels et vous verrez que dans 1 Corinthiens 12, 13 et 14, ça parle des dons spirituels, mais qu'entre le 12 et le 14, il y a le 13. Eh oui, et c'est quoi 1 Corinthiens 13? C'est l'amour. Et l'apôtre Paul est en train de dire, les dons spirituels sans l'amour, ça sert à rien. Le Saint-Esprit sans l'amour, ça sert à rien. Si je n'ai pas l'amour, je suis qu'un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Et il est en train de parler des dons spirituels en disant, ça sert à rien de rechercher toute la puissance et la gloire de Dieu s'il n'y a pas l'amour dans ta vie. Parce que justement, le but de la manifestation spirituelle, le but du don spirituel, le but du baptême dans le Saint-Esprit, c'est qu'on bénisse les autres, c'est qu'on aime les autres, et c'est qu'on donne aux autres. C'est que le don spirituel a pour objectif l'édification du corps de Christ, pour la bénir et édifier les autres. On parle de baptême dans le Saint-Esprit, mais comprenez que le mot baptême ici, c'est pas le mot initiation. Vous savez, des fois, on parle de baptême quand il y a quelque chose qui démarre. On dit, on a mis un bateau à l'eau, on l'a baptisé. Non? Avec la bouteille de champagne, là. Ou alors, quand on donne un nom à quelqu'un, on l'a baptisé. Non, quand on parle du baptême dans le Saint-Esprit, on parle vraiment du mot grec ici, baptismos, qui veut dire immersion. Alors, à chaque fois qu'on dit baptême dans le Saint-Esprit, essayez de mettre à la place du mot baptême le mot immergé. Soyons immergés dans le Saint-Esprit. Pas plongés. Pas une trempette dans le Saint-Esprit. J'ai été un jour plongé dans le Saint-Esprit, mais j'en suis sorti. Soyez remplis. Et que, on reprend l'image de notre bidon, quand on est là plongé, immergé, ça déborde de partout. Parce qu'on est plongé dans le Saint-Esprit. Immergé dans l'Esprit-Saint. L'apôtre Paul parle des dons spirituels. Et il y a 9 dons spirituels qui sont là. Et nous croyons que ces dons spirituels se manifestent lorsque ça déborde, lorsqu'on est rempli à tel point que ça déborde. Et j'allais dire, plus ça déborde et plus ces dons spirituels se manifestent. D'accord? Est-ce qu'on peut dire, Seigneur, augmente-nous cette capacité à pouvoir manifester les dons spirituels? Seigneur, augmente-nous. Est-ce que quand vous êtes venu ce matin, vous avez prié avant de venir dans votre culte personnel en disant, Seigneur, sers-toi de moi ce matin pour apporter une prophétie dans l'Église. Seigneur, sers-toi de moi pour apporter une parole de sagesse. Seigneur, sers-toi de moi, que ton Esprit Saint puisse se servir de moi. Aspirez aux dons les meilleurs. Et que ce soit notre zèle. Parce que trop souvent, certains disent, moi, je veux que l'Esprit augmente dans ma vie. Puis quand ça arrive en haut, on s'arrête là. Mais c'est pas un but. Le fait de parler en langue, c'est pas un but en soi. À quoi ça sert juste de parler en langue? Il y a que Dieu qui te comprend. Non? Quelqu'un va dire, non, mais moi, j'ai lu ma Bible. Hein. Je sais que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. D'accord. Mais est-ce que la volonté de Dieu, c'est que tu te fasses du bien à toi tout seul? Puis que ça reste juste pour toi? C'est pas un but, c'est pas un objectif. L'objectif, c'est vous recevrez une puissance du Saint-Esprit et vous serez mes témoins. L'objectif, c'est vous recevrez une puissance et cette puissance va se manifester au travers de guérisons de malades. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. On peut parler de la vision maintenant. Quelle est notre vision? Et c'est pour montrer la vision de l'église de Pentecôte à Drummondville. Non, on va arriver tout de suite après. On a plusieurs diapos à sauter. Quelle est notre vision? Qu'est-ce que nous voulons ici? Ma vision, ce que je désire, c'est pas que tout le monde parle en langue. Et dire c'est formidable, on est dans une église où tout le monde parle en langue. Ce que je désire, c'est que tout le monde manifeste les dons spirituels. Et que quand vous priez pour un malade, le malade soit guéri. Que quand vous parlez à quelqu'un de Jésus, vous ayez des paroles prophétiques, des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, qu'il y ait là vraiment une foi surnaturelle, qu'il y ait une manifestation de miracles, parce qu'il y a tellement d'esprit en vous que ça déborde, que ça déborde, que ça déborde encore, et que le Saint-Esprit se manifeste ainsi en vous. Est-ce que c'est le cri de notre cœur? Est-ce que c'est ce que nous voulons? Passons à la diapo suivante. Est-ce que c'est ce que nous voulons? 1 Thessaloniciens, l'apôtre Paul dit, « Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. » Et c'est ce que je désire dans cette église. Que la prédication, que le message, que la proclamation de l'évangile soit pas en parole seulement. Parce que si c'est juste en parole seulement, qui allons-nous convaincre? Quelle est notre force de persuasion? C'est le Saint-Esprit qui convainc. Mais l'apôtre Paul ne parle pas seulement de conviction, il parle aussi de persuasion avec l'Esprit Saint, parce que l'évangile a été prêché avec persuasion. Et si on continue, dans 1 Corinthiens, il dira la même chose. On est dans une autre ville. Il dit « La parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse. » Il dit pas « J'ai fait des grands discours de théologie et en parlant des grands philosophes grecs, j'ai réussi à vous convaincre qu'il y avait un Dieu quelque part. » Non, il dit « C'était pas les discours persuasifs de la sagesse, mais une démonstration d'esprit et de puissance. » Et nous avons besoin dans cette église encore d'une démonstration d'esprit et de puissance. Et pour moi, une église de Pentecôte, c'est pas une église où on parle du Saint-Esprit, où on parle seulement du Saint-Esprit, où on parle toujours du Saint-Esprit. C'est une église où il y a vraiment le Saint-Esprit. C'est une église où il n'y a pas seulement des gens qui parlent en langue, qui parlent en langue, qui parlent en langue, et puis quoi? Ça fait quoi de plus? Vous savez, des fois, il y a toutes sortes de manifestations un peu bizarres, des fois. Hein. Il y a un manque d'équilibre dans certaines églises concernant le Saint-Esprit. Et après, alors on voit qu'ils disent « Ah, il s'est produit des choses extraordinaires, il y a eu une vague de je ne sais pas quoi, puis des gens sont tombés ou je ne sais pas trop quoi, ce qui a pu se passer. » D'accord, mais la question, c'est de dire « Et après, ça a changé quoi? Est-ce qu'il y a une transformation? Est-ce qu'il y a un miracle? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière tout ça? » Si c'est juste un phénomène surnaturel, si c'est juste un spectacle, si c'est juste fait parler en langue, et puis plus on parle fort, plus on impressionne et mieux c'est. Non, ça sert à rien. Ce que Dieu a pour nous, c'est bien plus que ça. C'est une puissance qui persuade. Pourquoi? Parce que les malades sont guéris. Parce que ceux qui rentrent dans ce lieu sont convaincus. Parce que la prédication vient toucher les cœurs. Et je bénis Dieu pour ce qu'il fait déjà au milieu de nous. J'aspire à plus. Mais laissez-moi vous dire que nous voyons Dieu agir dans ce lieu. Que le Saint-Esprit est déjà là. Oui? Moi, je me réjouis quand quelqu'un me parle et me dit, j'avais une question, je suis venu dans l'église, j'avais une question, et puis dans la prédication, vous avez juste parlé de la question que j'avais. Ou quelqu'un disait, on avait une conversation cette semaine, et puis on n'était pas d'accord, et dans la prédication, c'est juste venu répondre à ça. Quelqu'un disait d'autre, moi, j'avais préparé une étude biblique, et puis je voulais la porter, et je vous avais juste parlé sur ce que j'avais préparé, ça confirme que le Saint-Esprit est à l'œuvre, que c'est lui qui conduit, que c'est lui qui dirige. Mais maintenant, je dis avec les apôtres, augmente-nous notre foi. Augmente-nous la manifestation du Saint-Esprit au milieu de nous. Pas qu'on parle plus en langue, ou qu'il y en ait plus qui parlent en langue, mais qu'il y en ait plus qui manifestent les dons spirituels. Combien de prophéties ce matin? Combien de prophéties dimanche dernier? Alors, la volonté de Dieu, et c'est dans les versets qui sont sur votre liste, c'est que nous soyons dans l'ordre. On ne soit pas dans une église de désordre où ça va dans tous les sens et n'importe comment. Mais Dieu veut parler au cœur. Et quand le Saint-Esprit veut nous conduire et nous pousser, il y a quelque temps dans cette église, alors qu'on était dans un temps de prière, je me semble, oui, c'était un dimanche soir, j'ai dit au micro, il y a quelqu'un qui a reçu un don spirituel, une parole de Dieu, il faut que cette personne l'apporte maintenant. Puis la personne n'a pas apporté cette parole. Alors, le Seigneur a parlé à mon cœur et j'ai moi-même apporté cette parole. Quelque temps après, la personne est venue me voir en disant, ce que vous avez dit, c'est ce que j'avais sur le cœur. Voyez, c'est ce genre d'obstacle qu'il faut qu'on franchisse. Qu'on arrête de retenir ce que le Seigneur nous a donné. Et que quand le Seigneur met quelque chose sur ton cœur, dis-le. Quand ça doit déborder, mets pas un couvercle pour que ça sorte pas. Quand tu sens qu'il y a quelque chose, le Saint-Esprit te pousse, il y a quelque chose qui doit déborder, retiens pas ce que le Saint-Esprit te donne. Et il y a une liberté. Le Saint-Esprit, on parlait de liberté il y a quelque temps, le Saint-Esprit doit avoir la liberté de s'exprimer, de parler. Maintenant, j'aspire à des paroles qui soient puissantes, des paroles qui soient convaincantes, pas juste une parole gentillette, passe-partout. Le Seigneur te dit ce matin qu'il est là et que tout va bien. Voilà. Mais vous rigolez, mais peut-être quelqu'un, ça va lui faire du bien d'entendre ça. Non? C'est formidable, le Seigneur est là. Mais vous comprenez que Dieu, quand il parle, il peut être plus précis. Et il peut parler d'une manière plus directe. Je me souviens avoir entendu quelqu'un dire... Le Seigneur sait que tu as un revolver dans ta poche et que tu as l'intention de te suicider en sortant de l'église. La personne qui avait le revolver dans sa poche, elle dit, ouh, Dieu est là. Hein? Croyez pas? Mais moi, j'aspire à ça, à l'église de Pentecôte de Drummondville. C'est aussi pour nous que le Seigneur puisse parler avec force, avec puissance et que la prédication soit confirmée. Regardez dans Marc 16, il est dit... Ils s'en allèrent prêcher partout, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Il doit y avoir des miracles qui accompagnent la parole. Gloire à Dieu pour tous ceux qui ont été guéris dans cette église durant les mois passés. Il y en a qui ont été guéris. Amen. Gloire à Dieu. Mais Dieu veut plus encore. Et qu'on puisse dire, Seigneur, nous voulons recevoir cette puissance. Et quelqu'un dira, mais moi ça déborde déjà dans ma vie. Quelqu'un dira, mais moi je parle déjà en langue. Oui, mais attends, si ça déborde juste un tout petit peu au compte-gouttes là, le Seigneur veut plus pour toi. Pas simplement dire que je parle en langue, ça y est, je suis arrivé quelque part. T'es arrivé nulle part. Il y a plus encore. Des fleuves d'eau vive. Est-ce que de toi, c'est des fleuves, attendez, un fleuve là, le Saint-Laurent, qui sort de toi. Fait de la puissance, là, non? Déjà, la rivière Saint-François, quand ça pousse la glace, ça peut casser des maisons, non? Imaginez le fleuve, il y a de la puissance. Et le paradoxe, c'est un fleuve, bon, on va dire, oui, mais un fleuve, ça avance tout doucement. Oui, mais sauf que c'est un fleuve qui a des eaux vives. La même chose que dans un torrent, vous savez, dans un petit torrent, il y a de l'eau vive, là, il y a de l'eau fraîche, il y a de l'eau qui bouillonne. C'est la même chose, mais avec un fleuve. Ça ressemble un peu aux chutes du Niagara, hein? C'est ça qui doit sortir de toi. Pas une petite fuite, une petite Parce que ça, tu ne pourras plus mettre la main en disant « je ne veux plus que ça sorte ». Vous comprenez ? Si tu as une fuite, tu arrives à mettre le doigt. Des fois, avec un doigt, on arrive à boucher une fuite d'eau, non ? Mais va avec ton doigt boucher la fuite des chutes du Niagara. Ça ne marche plus. Et c'est pareil dans nos vies. Seigneur, je ne veux pas freiner, il faut que ça sorte. Alors, oui, nous croyons que le fait de parler en langue, c'est une manifestation qu'il y a quelque chose qui sort, mais il ne faut pas que ça s'arrête là. Si c'est que du parler en langue, ça ne sert à rien. Ça ne sert pas à grand-chose, ça sert juste à toi. Et on n'est pas des égoïstes en disant « je pense qu'à moi ». La volonté de Dieu, c'est qu'on donne autour de nous. Et pour ça, dire « Seigneur, remplis-moi encore davantage, même si je suis déjà rempli, ben remplis-moi plus encore pour que ça sorte plus et que ça bénisse ceux qui sont autour de moi. » Juste une parenthèse, vous verrez que dans les 9 manifestations du Saint-Esprit, il y a le parler en langue et l'interprétation des langues. Et quand il y a une différence, il y a 2 parler en langue qui sont différents. Alors, je sais que ça peut amener une confusion, mais ce n'est pas le même parler en langue. L'apôtre Paul parle d'un parler en langue qui est en fait le signe qu'il y a quelque chose qui déborde. Ce parler en langue, c'est quelque chose de personnel, c'est quelque chose d'intime. Et même l'apôtre Paul dit ça, c'est pour toi, c'est à la maison, c'est pas à l'église. Quoi ça sert de parler en langue à l'église si personne ne te comprend là ? Hein ? Si on se mettait à parler là, c'est comme que je téléphonais à Philippe, il met un message sur son répondeur en norvégien. Il dit bon. Il dit allô, oui, bon, d'accord. Bon, il y a peut-être quelques Norvégiens qui l'appellent, hein, je ne sais pas. Mais vous comprenez, si quelqu'un se met à parler dans une langue qu'on ne comprend pas, si je vous prêchais en... Je ne sais pas parler norvégien. Hein? Maybe ich kann nur ein bisschen Deutsch sprechen. Und ich, if, hop, ich Deutsch spreche. Non, ma femme dit non. Bon, si je me mettais à parler en allemand, on dirait, mais qu'est-ce qu'il dit là? Ça ne marche plus là. Mais non, on est là pour se comprendre. Et même si on parle les langues du ciel, même si on parle d'autres langues conduites par le Saint-Esprit, l'apôtre Paul dit, pas dans l'Église, à moins que ce soit interprété. Le fait de parler en langue, de se parler en langue qui nous édifie nous-mêmes, de se parler en langue qui est une louange à Dieu, de se parler en langue qui est à la gloire de Dieu, ça, parler en langue dans votre culte personnel. L'apôtre Paul dit « Je parle en langue plus que vous tous et même abondamment. » Et je vous encourage, pour ceux qui parlent en langue, à parler en langue chez vous, dans votre maison, dans votre culte personnel. Vous allez vous faire du bien, vous allez prier selon le cœur de Dieu et ça va quelque part venir grandir aussi la manifestation du Saint-Esprit dans votre vie. Mais maintenant, dans l'Église, on parle en français. On est au Québec ici. Et s'il y a un don spirituel, il y a le fait de parler en langue qui est le signe qu'il y a quelque chose qui déborde. Je vais essayer de parler simplement. Mais de l'autre côté, il y a un don spirituel où c'est Dieu qui nous conduit dans un message en langue. Ce message doit être interprété en français, puisqu'on est dans un pays francophone. Mais s'il n'est pas interprété, que la personne se taise. C'est ce que dit clairement l'apôtre Paul. Je referme ma parenthèse. Et en conclusion, j'aimerais simplement relire avec vous la vision de l'Église de Pentecôte de Drummondville. Nous aspirons. J'aspire à une Église accueillante. Et c'est comme si des fois, on s'arrêtait juste sur ce premier mot en disant, bon, il faut que l'Église soit accueillante, et puis on oubliait tout le reste. Peut-être parce qu'on a des progrès à faire, puis on dit, bon, ben, tant qu'on n'a pas fait accueillant, on ne fait pas compatissant. Puis quand on aura fini accueillant, on fera le mot d'après, puis on avance comme ça progressivement, mot à mot. Pourquoi pas? Mais en tout cas, il faut qu'on comprenne où on va. Et dans quelle direction on va? J'aspire à une église accueillante, une église compatissante et chaleureuse où le malheureux trouve du réconfort et le désespéré de l'espoir. Une église où la prédication de la croix et de l'évangile sont puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Voulons être une église où on prêche Jésus crucifié, ce que Jésus a accompli à la croix du calvaire. On est là pour dire les choses en face. Et pour dire, si tu ne crois pas, il y a un enfer qui s'attend. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Deuxièmement, ensuite, j'aspire à une église en mission qui se préoccupe du sort des perdus, même à la volière et dans les appartements Blanchette, et des laissés pour compte. Une maison de prière, et nous voulons être une maison de prière, qui aspire à la puissance du Saint-Esprit ainsi qu'aux dons spirituels. Est-ce que c'est la vision de l'Église ce matin de dire « Nous voulons être une maison de prière qui aspire à la puissance du Saint-Esprit, que Dieu se manifeste avec puissance au milieu de nous à travers des dons spirituels. » Une Église assoiffée de la présence de Dieu et de la connaissance de la Bible. Il doit rester encore un paragraphe. Une Église en paix, dans l'amour, le respect des uns des autres et la compassion. Une Église qui va de l'avant, grandissant et progressant dans la maturité spirituelle. Nous avons du progrès à faire. Et tant mieux. On n'est pas arrivé encore. Mais en regardant derrière nous, est-ce qu'on a fait des progrès par rapport aux derniers mois, dernières années? C'est ça qui est important. Si on regarde devant nous en disant « Ouh, il y a encore beaucoup de progrès à faire », mais regarde derrière tout le progrès qui a été déjà fait et continuons à avancer. Et qu'on dise « Seigneur, on veut grandir dans la vie spirituelle. On veut grandir dans la manifestation du Saint-Esprit. On veut grandir dans la puissance du Saint-Esprit au milieu de nous. » Et je m'adresse particulièrement maintenant à ceux qui viennent à l'Église depuis pas longtemps, ou c'est peut-être la première fois ce matin, qui disent « Bon, ben d'accord, mais moi je suis pas trop concerné par ça. » Ben, ce que tu peux comprendre ce matin, c'est que la vie avec Dieu, c'est pas juste des paroles, c'est pas juste des mots, c'est pas une religion, mais qu'il y a une puissance de Dieu qui se manifeste. Elle se manifeste au travers de son Saint-Esprit, elle se manifeste au travers de sa parole, elle se manifeste par la foi. Dieu est un Dieu puissant. Et nous croyons dans cette Église que Dieu fait des miracles encore, que l'on peut être guéri, que Dieu guérit le malade encore, que Dieu pourvoit aux besoins, qu'il répond à nos prières. Et si devant l'Église, on a mis une Bible avec un verset choisi dans le psaume, on a dit « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend », c'est parce qu'on croit. Mais comprenez que quand on dit « l'Éternel entend », ça ne veut pas dire « oui, Dieu a entendu là », mais c'est tout. C'est pas « oui, bon, Dieu a entendu le malheureux », non. Dieu a entendu et il va faire quelque chose pour le malheureux. Dieu a entendu et la puissance de Dieu va se manifester en faveur de ce malheureux. Et nous voulons que les malheureux qui viennent dans ce lieu soient au bénéfice de la grâce de Dieu et que la puissance de Dieu se manifeste en leur faveur par la guérison du corps, la guérison de l'âme, la guérison de l'esprit, par un renouvellement, par une fraîcheur, par quelque chose de miraculeux et de surnaturel. S'il y a des besoins dans ta vie ce matin, si tu viens dans ce lieu en disant « mais moi j'ai tellement de besoins des choses qui sont impossibles aux hommes », la bonne nouvelle, c'est que tout est possible à Dieu. Et Jésus nous fait la promesse que nous recevrons une puissance. Cette puissance se manifeste aujourd'hui encore par la foi. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et nous le croyons. Et le cri de notre cœur et la prière de notre cœur, c'est de dire « Seigneur, augmente notre foi. Seigneur, remplis-nous du Saint-Esprit encore davantage. » Et Seigneur, si je suis déjà rempli du Saint-Esprit, remplis-moi encore plus afin que ça déborde plus. Je suis sûr que ceux qui seront à côté de vous seront tout contents que vous débordiez un peu plus. Non? Prions ensemble. Il est bon, Seigneur, d'être dans ta présence ce matin encore. Seigneur, nous voulons vivre selon les principes de ta parole. Nous voulons grandir avec toi. Nous voulons faire des progrès dans notre vie spirituelle. Je veux te prier ce matin pour que ton Saint-Esprit puisse amener une conviction dans le cœur de chacun. Tu vois, ceux qui ont besoin d'être convaincus, ceux qui ont des doutes, ceux qui ont des questionnements, je te prie, Seigneur, qu'au travers de cette semaine, tu puisses les éclairer par ton Esprit Saint. Tu puisses les conduire dans ta parole et tu puisses te révéler toi-même à leur cœur. Je te prie, Seigneur, de venir nous remplir encore davantage de ta puissance. Je le prie pour moi-même, Seigneur. Je prie pour que les pasteurs de cette Église, je te prie que pour moi-même, soyons encore davantage remplis de ta puissance, qu'il y ait plus de miracles, d'autorité, d'onction, la gloire de Dieu qui se manifeste dans ce lieu. Et je le prie pour chacun d'entre nous, pour tous les chrétiens de cette Église, pour les jeunes au cégep, dans les écoles secondaires. Je te prie pour chacun qui ait la puissance de Dieu qui les accompagne, pour pouvoir proclamer avec force, avec autorité, avec puissance, avec signe et avec miracle le nom de Jésus, venant amener une pleine persuasion dans toute cette ville. Ô Seigneur, que ton nom soit glorifié pour toutes les belles choses que tu as déjà faites et pour tout ce que tu veux faire encore devant nous. Et nous voulons être de ceux qui obtiennent les promesses, de ceux qui ouvrent grand nos cœurs pour dire « Remplis-nous encore, Seigneur, nous voici pour te servir et pour faire ta volonté, et que ton nom seul en soit glorifié. Amen. »
Enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.